C'était une fois, je reviens avec une histoire, bien évidemment, un jeune homme en recherche d'emploi. Il cherchait un poste dans un bureau d'architecture et il trouve une annonce où il postule dans une entreprise de grande envergure. Et c'est là-bas qu'il postule, dans ce bureau d'architecture. Ensuite, il va au premier entretien. Entretien qui réussit avec brio. Et ensuite, on lui propose un deuxième entretien avec le directeur général de cette grande entreprise. Donc, il retourne là-bas pour la deuxième session, et cette fois avec le directeur général. Et le directeur général lui dit, écoutez, vous avez vraiment un CV qui est très intéressant, il est vraiment impressionnant, tout ce que vous avez fait, franchement, pour votre âge, je suis impressionné. Et il lui dit, Mais j'ai une question à vous poser. Qui a payé vos études? Est-ce que vous avez reçu une bourse d'étudiant pour pouvoir faire toutes ces études à votre âge? Et là-dessus, il dit, ah non, je n'ai pas reçu de bourse, c'est mes parents, c'est mon papa qui a payé mes études. Et là-dessus, le jeune, tout fier de dire que c'est son papa qui a payé, et le directeur général le regarde et il lui dit, ah bon? Et qu'est-ce qui fait comme métier votre papa? Et là-dessus, il dit, ah, mes parents, ils sont fermiers. Et puis il lui dit, ah, ben, c'est bien, est-ce que vous travaillez de temps en temps avec eux? Et le jeune homme dit, ah, non, ça m'arrive, mais c'est assez rare. Et là-dessus, le directeur lui dit, j'ai une requête à vous faire, pouvez-vous me montrer vos mains? Et le jeune homme est un peu surpris par la question, il se dit, mais c'est un entretien d'embauche, qu'est-ce qu'il veut voir mes mains? Du fait qu'il est vraiment intéressé par le poste, il lui montre ses mains. Et ses mains sont très douces. Elles sont parfaites. Et là-dessus, il lui dit, écoutez, j'ai une proposition à vous faire. Je vous demande de rentrer à la... Petit instant. Je suis allée trop loin. Oups! Donc je continue pas, je suis désolée. Mince, c'était une requête un petit peu bizarre. Donc, du fait que j'ai continué, je vais continuer. Parce que je suis allée un peu trop loin. Et puis là-dessus, il lui dit, il y a Madeleine qui est en train de...
J'ai dit que même si tu finissais l'histoire,
on
restait jusqu'à la fin.
Ah, j'ai de la chance. Et là-dessus, il rentre à la maison. Il va chez son papa et lui dit, écoute, voilà, j'ai postulé pour ce poste qui m'intéresse et il m'a demandé de faire quelque chose. Son papa, surpris, se demande ce qu'il veut et lui dit, écoute, viens. Et il commence à lui laver les mains. Son papa, il est un petit peu mal à l'aise parce qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, mon fils? Pourquoi est-ce qu'il me lave les mains comme ça? Et c'est la première fois qu'il regarde vraiment les mains de son papa. Il voit que ses mains sont rugueuses, il voit qu'elles sont bien abîmées. Il y a même des cicatrices dessus. Et le fils n'a jamais vu ça avant. Et il se dit, waouh, toutes les cicatrices de mon papa. Quel métier dur il fait. Il ne s'en était pas rendu compte. Il ne s'était pas rendu compte que les études qu'il avait faites, ben c'est son papa qui les avait payées avec un labeur qui était vraiment dur. Donc voilà, et là, il se mit à pleurer. Et ils ont passé la fin de la soirée ensemble, ils ont discuté pendant des heures et ensuite il l'a aidé à la ferme. Mais il faut savoir que ses parents ont toujours dit, nous on ne veut pas que tu nous aides, nous on veut que tu fasses tes études. Donc c'est pour ça que le jeune ne les a jamais vraiment aidés. Le jour suivant, il retourne de nouveau chez cet éventuel nouvel employeur et celui-ci lui demande, qu'avez-vous appris hier? Et là-dessus, le jeune se met à pleurer, il a les larmes qui coulent, et il dit, mais je ne me rendais pas compte ce que ça voulait dire, gagner sa vie, je ne me rendais pas compte ce que mes parents avaient fait, ce que ça leur avait coûté. Et après, j'ai passé des heures avec mon papa en train de parler, et on a passé vraiment un temps qui est magnifique ensemble. Et là-dessus, le directeur général le regarde avec le grand sourire, et il lui dit, c'est exactement ce que je recherche. chez les collaborateurs. Je recherche des gens qui sont remplis de bonté, des gens qui ne pensent pas seulement à gagner de l'argent, mais des gens qui soient là, et des gens qui soient humbles, et des gens qui soient remplis d'humilité et d'humanité. Je vous engage. Voilà. Vous avez eu toute l'histoire depuis le début. Je fais lecture de Michée. Michée 6, 6 à 8. Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? Et avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Irai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'un an? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer pour mon crime, le fils cher de ma chair pour expier ma faute? On te l'a enseigné, ô homme. Ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec modestie tu vives pour ton Dieu. Fin de la lecture. Il est de coutume, alors que nous sommes invités pour un repas, pour partager un repas avec des amis ou des connaissances, d'apporter un petit cadeau, que ce soit un bouquet de fleurs pour la maîtresse de maison, ou bien une bonne bouteille de vin, ou bien peut-être encore un autre présent un petit peu plus personnel. Dans nos relations un peu formelles, cela fait partie de ce qu'on appelle les bonnes manières. Arriver les mains vides est souvent quelque chose d'un peu difficile pour chacun d'entre nous, en tout cas pour ma part. Si j'arrive les mains vides quand je suis invitée et je le sais à l'avance, franchement, je me sens assez mal à l'aise. Est-ce culturel? Typiquement suisse? Je n'en suis pas certaine. Cette règle était déjà de vigueur à l'époque des écrits bibliques. Quand les grands de ce monde se rendaient mutuellement visite, il était de coutume d'apporter un présent digne d'un roi. Il était logique de penser que pour entrer dans la présence de Dieu, de l'Éternel Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, il fallait lui apporter un énorme, voire un gigantesque cadeau. Avec quoi donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Avec quoi pourrais-je lui rendre un culte? Avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu très haut? Irai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'un an? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile? Devrais-je sacrifier mon premier-né? Quand l'être humain est honnête avec lui-même et quand il est sincère, quand il prend le temps de réfléchir, il est obligé de reconnaître qu'il se sent coupable devant Dieu. C'est alors, seul avec lui-même, qu'il se pose de vraies questions. Comment puis-je communiquer avec mon Créateur? Comment puis-je me rendre acceptable à ses yeux? Comment peut-il pardonner ma faute, mon crime? Que dois-je faire pour apaiser la colère de l'Éternel et entrer dans sa présence? Rappelons-nous, dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, que l'odeur des sacrifices consumés par le feu apaisait Dieu. Qu'est-ce qu'il attend de son peuple? Quelles sont ses exigences? Michée enseigne aux Israélites que les exigences de Dieu ne se résument pas aux sacrifices. Comprenez-moi bien, les sacrifices sont essentiels dans l'Ancien Testament. Essentiels pour nous réconcilier et entrer dans la présence de Dieu. C'est Dieu en personne qui a inauguré le système lévitique avec ses exigences pour l'expiation des péchés. Michée est un homme pieux, obéissant à la loi de Dieu. Il comprend que l'observance de la loi est l'expression extérieure d'une attitude intérieure de cœur. Ce qu'on voit est important, mais l'essentiel, c'est l'attitude du cœur. Et cela était déjà dans l'Ancien Testament. C'est du cœur qu'émane la confiance et la dépendance à Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Notre texte pose quasiment les mêmes questions que nous nous posons aujourd'hui. Comment nous réconcilier avec Dieu? Comment pallier à nos manquements? Comment plaire à Dieu? Comment entrer dans sa présence? L'homme est de nature déchue, comme vous le savez. Ne l'oublions pas. L'être humain croit que pour s'approcher de Dieu, il doit faire quelque chose. Il croit qu'il peut y contribuer, qu'il peut y accéder avec ses œuvres, comme on a vu avec l'image qui montrait est-ce qu'on rame ou est-ce qu'on prie. Mes amis, quelle arrogance! L'homme se met au même niveau que Dieu. C'est de l'orgueil humain. D'un côté, l'homme ne veut pas être redevable à Dieu, et de l'autre, il veut établir une relation donnant-donnant, comme on a l'habitude de faire et comme on connaît. Nous avons de la difficulté à recevoir. C'est aussi culturel. Acte 20, 35, Jésus dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Un jour, quelqu'un lui pose la question suivante, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui m'a envoyé. » Jacques 6, 28 à 29. L'homme croit qu'il doit agir, contribuer, faire de bonnes œuvres afin de plaire à Dieu et d'obtenir la vie éternelle. La réponse de Jésus va à l'encontre de la pensée humaine, à l'encontre de tout ce qu'on nous enseigne. Ce n'est pas du donnant-donnant. Non, ce que Dieu nous donne est inconditionnel. Nous n'avons pas besoin de performer, d'apporter quelque chose. Il n'y a rien que nous puissions faire pour racheter notre salut. À cause de ma nature pécheresse, le péché colle à ma peau. Il m'est impossible de satisfaire ce Dieu trois fois saint. Ce que Dieu demande est un cœur contrit, sincère, et humble, un cœur repentant qui se tourne vers Jésus-Christ et pour qu'il devienne son sauveur et son Seigneur. La foi demande un engagement entier, que ce soit dans les pensées, dans le cœur, dans la volonté, dans notre façon de vivre. Nos œuvres ne peuvent racheter nos âmes. Seul le sang de Christ y a remédié. Merci Seigneur. Le prophète Michée reprend clairement le peuple d'Israël. En Michée 2:1, il est dit « Malheur à ceux qui projettent la justice et qui forgent le mal dans leur lit. Au point du jour, ils le réalisent quand ils ont le pouvoir en main. » L'Éternel Dieu dit en Michée 3:1 à Dieu « Écoutez donc, chef de Jacob, et vous qui gouvernez le peuple d'Israël, ne devrez-vous pas bien connaître le droit? Vous détestez le bien et vous aimez le mal. » Le comportement des Israélites ressemble fort bien aux chefs religieux, aux pharisiens que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Matthieu 23, 23. « Malheur à vous, spécialistes de la loi, pharisiens, hypocrites! Vous qui vous, vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe, l'anis et le cumin, mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. » Osée 6, 6. Je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu, bien plus qu'aux holocaustes. Voici trois prophètes contemporains de Michée, Osée, Amos et Ésaïe. Osée, pour sa part, soutient l'importance de l'amour, la connaissance et la bonté. Amos, quant à lui, insiste sur la droiture et la justice sociale. Ésaïe, lui, il dénonce l'orgueil humain. Ceux qui se confient en leurs propres ressources et n'obéissent pas à la volonté de Dieu. Regardons les trois piliers que Dieu attend de son peuple et en même temps de chacun d'entre nous aujourd'hui. L'Éternel attend que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté, qu'avec modestie tu vives pour ton Dieu. Premier pilier, que tu te conduises avec droiture. Le dictionnaire Larousse définit la droiture comme suit. Qualité d'une personne de sa conduite qui agit honnêtement, avec loyauté et franchise. La droiture est l'un des principaux attributs de Dieu. Dieu agit toujours dans le sens du bien et de la justice. Dieu agit toujours dans le sens du bien et de la justice. La droiture de l'hébreu tzadik signifie justice. L'homme droit, l'homme de bien est appelé tzadik, juste. L'homme droit applique la justice demandée par Dieu au travers de l'observance de la loi. Pour le dire autrement, la justice est ce qui est juste aux yeux de Dieu, ce qui est conforme à sa volonté, pas la volonté des hommes, mais à la volonté de Dieu. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Jésus-Christ nous demande de vivre selon les principes du royaume de Dieu. Le message de Michée est clair et limpide. Mettons en pratique la volonté de Dieu. Qu'est-ce que cela implique? Apprendre à toujours plus le connaître. Il nous faut lire la parole de Dieu, l'écouter, la méditer. Elle doit impérativement nous être notre nourriture quotidienne. Elle doit nous parler, nous habiter, nous imprégner, nous transformer. Elle doit être le baromètre de notre vie. Pas seulement les passages bibliques qui nous font du bien, qui vont dans notre sens, mais toute la parole de Dieu doit nous remettre en question et doit nous aider à progresser. Jacques 1, 23. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Ce que Dieu demande, c'est que nous mettions dans chaque aspect de nos vies sa parole en pratique, que ce soit au sein du couple, dans la famille, à l'église ou dans notre travail. Le deuxième pilier, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté. Voici comment le dictionnaire Le Robert définit la bonté. Qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. En d'autres termes, l'altruisme, la bienveillance, l'humanité. Dans la Bible, la bonté s'applique essentiellement à Dieu. Dieu est bon parce qu'il a un être moralement parfait et généreux. C'est dans son ADN. La bonté n'est pas une notion abstraite. Elle exprime la nature de Dieu, de qui il est. Psaume 105. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le cherche. Lamentations 3, 22 à 25. La bonté de Dieu est inépuisable. Alléluia, merci Seigneur. Quel cadeau il nous fait. Elle est infinie, éternelle. Elle fait partie intégrale de l'essence même de notre Dieu trinitaire. C'est un don que Dieu nous fait. À chacune et chacun d'entre nous. Il pardonne les péchés. Il se rend accessible. Dieu nous fait du bien. Il nous bénit. Il nous secourt. Il guérit les malades. Il guérit les cœurs meurtris. Il exauce les prières. Dieu nous comble de faveurs, de bienfaits et de bénédictions. Prends plaisir à témoigner de la bonté de Dieu. Jésus le Christ nous a aimés parfaitement. Il s'est donné à la croix pour chacune et chacun d'entre nous. S'il n'y aurait eu qu'un être humain, s'il y aurait eu seulement Alma sur terre, Dieu, Jésus-Christ, serait mort pour Alma. C'est à quel point il aime chacune et chacun d'entre nous. La miséricorde et le pardon de Dieu. Prenons toujours plus conscience de la bonté de Dieu. Ne prenons pas sa bonté pour un acquis. Acte 1:8. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à la Samarie et jusqu'au bout du monde. Que nos vies témoignent concrètement de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Que nos vies aient un impact pour l'éternité. Ceci est ma prière pour chacun d'entre nous. Et le troisième point, qu'avec modestie, tu vives pour ton Dieu. D'autres traductions traduisent que tu marches humblement avec ton Dieu. La modestie est une démonstration de l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? Selon Wikipédia, l'humilité est le sentiment de ne pas être grand-chose, d'être petit par rapport au monde qui nous entoure. Bibliquement parlant, l'humilité, c'est le sentiment de notre insuffisance, de notre pauvreté spirituelle. Une personne humble reconnaît ses limites, ses capacités. Elle fait preuve de modestie, de respect, de simplicité et de vérité. Elle reconnaît ses erreurs. Elle sait demander pardon. L'humilité doit être la base de notre relation avec Dieu. L'humilité est le signe incontestable de soumission et de dépendance à Dieu. Dans notre relation d'intimité avec Dieu, il déverse son amour en nous. C'est une relation verticale comme la croix, le côté vertical. Ensuite, l'amour que nous avons reçu, nous le donnons horizontalement envers nos contemporains, nos frères et sœurs en Christ. C'est de même avec l'humilité. C'est d'abord aller vers Dieu humblement devant son Dieu et ensuite verticalement avec ses frères et sœurs en Christ. 1 Pierre 5, 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. En vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. C'est là où je dis, je reviens à mon histoire. Jésus a été fait justice. Il a parfaitement accompli la volonté du Père. Nous sommes déclarés justes. En lui, nous sommes capables d'accomplir la volonté de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes capables d'accomplir la volonté du Père. Le message de Michée insiste sur l'importance de la soumission à Dieu. Dépendre vraiment de lui, nous rendre capables de vivre une vraie vie de disciples. Des disciples obéissant à sa volonté. Vanessa, qui revient d'une école de disciples, va nous en dire quelques mots après sur ce que c'est, je pense, d'être un disciple. En l'occurrence, pour nous aujourd'hui, dans ce texte, que nous nous conduisons avec droiture, que nous prenions plaisir à témoigner de sa bonté, que nous marchions humblement devant notre Dieu. Nous avons besoin de vivre ces trois piliers, autant avec Dieu qu'avec nos frères et sœurs en Christ et nos contemporains. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et on haït son prochain. Bibliquement parlant, ça ne tient juste pas la route. Si on aime Dieu, on est obligé d'aimer son prochain. C'est un programme de toute une vie. Mais Dieu en Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, nous en rend capables. Je termine ce message avec Hébreux 3, 12 à 15. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première, aussi longtemps qu'il est dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte. Amen.